Conférence à Fountain Valley du 2 au 4 juillet 2022. Se préparer pour être des prémices au proche retour de Christ. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Message 2. Nous voulons grandir et croître. Nous désirons atteindre la perfection. Nous détournons nos regards de tout ce qui n'est pas de toi. Réveille-nous dans ces jours. Que nous ne soyons pas si concernés par les choses de la terre, mais nous voulons faire partie de ces 144 000. Continue de parler, de nous parler au travers de ta parole. Je suis vraiment heureux que nous soyons dans ce fardeau des 144 000. Je crois que ces versets ont vraiment été dans mon cœur. Ça a vraiment pris mon attention il y a longtemps, comme ça a été partagé. Dans l'introduction, pas tous les chrétiens vont être pris au trône. C'est quelque chose de très important à réaliser. Dieu cherche ce peuple qui va mûrir plus tôt. Les prémices, c'est pas la totalité de la récolte, mais c'est les premiers à être mûrs. Et c'est ce qui va satisfaire le Père. Et c'est vraiment important que ça habite dans nos cœurs et que ce soit actif pour travailler en chacun de nous. La question des prémices est vraiment importante. C'est pour cela que nous partageons ce matin. Nous avons besoin d'être actifs. Tenir fermement avec le Seigneur dans l'unité. Qu'est-ce que le mont Sion ? Nous avons lu ces versets dans le psaume 132. Nous pensons toujours à Sion comme le lieu d'habitation de Dieu. Ce chant, il lui manque les derniers aspects. C'est que c'est pas juste un lieu d'habitation pour Dieu. Pour qu'ils reçoivent les sacrifices spirituels et l'adoration. Mais c'est le lieu où est son trône. Et avec le trône de Dieu, vient son règne victorieux pour détruire ses ennemis et pour en faire son marchepied. Est-ce qu'on a un tel concept, frères et sœurs, de ce qu'est Sion? Dans la communion, réalise que si nous n'avons pas cette conscience, si nous ne sommes pas si nous vivons chacun dans notre bulle, on n'est pas dans une bulle, frères et sœurs. Nous sommes à Sion. Alors nous avons besoin de cette conscience active. Il n'est pas juste notre rédempteur, mais il est celui qui est digne, celui qui est au trône, le seul qui est digne d'ouvrir le livre avec les sept sceaux. C'est celui par lequel Dieu veut amener son royaume. Il veut pas juste régner tout seul quelque part. Mais il veut le faire avec les 144 000, les prémices. Est-ce que vous voulez faire partie de ça? Est-ce que vous voulez vraiment faire partie de ça? Je suis toujours encouragée au réunion des jeunes. À chaque fois, il y a quelqu'un qui prie. Seigneur, fais-nous des prémices. N'est-ce pas, Aaron? C'est à chaque fois, c'est ta prière et nous prions cela à chaque réunion. Mais avons-nous un sens de ce que ça signifie, de ce que nous faisons? Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Comment tu t'entraînes pour l'armée? De manière passive? Relaxée? Non, tu te tiens debout, tu es actif, tu bouges. C'est pas juste la prière des jeunes, j'espère, mais que ce soit tous notre prière. Que le Seigneur fasse de nous des prémices. Le Seigneur a besoin de travailler avec nous. On ne peut pas être passif. Mais maintenant, quand on regarde dans Apocalypse 14, il parle aussi de son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Quel nom est écrit sur notre front? Quand je viens voir Emery, quel nom est-ce que je vois? Est-ce que je vois Apple? Il travaille là-bas. Et quand je viens vers Sarah, est-ce que je vois Salesforce? Le nom de son employeur. Et quand je viens voir Daniel, est-ce que c'est marqué footballeur? Qu'est-ce qui est écrit sur chacun de nos fronts? Est-ce que son nom et le nom de son Père? Pas juste son nom et celui du Père. Si on revient à Apocalypse 3, il parle de... Parle de son nom et de celui de sa ville. Est-ce que ces noms sont écrits sur nos fronts? Qu'est-ce qui est écrit sur notre front? Qu'est-ce qui est écrit sur notre front? Ce qui est écrit sur notre front dit vraiment ce qui est dans nos cœurs. Parlons aux enfants, c'est toujours très intéressant. Parce que c'est comme un livre. Je vois le titre de leur livre. Dès qu'ils s'asseyent, ils veulent parler de ce qui les intéresse. Ça peut être le baseball, ça peut être d'autres choses. Qui sera le premier joueur qui est-ce que tu connais telle équipe? Pourquoi? C'est vraiment écrit partout sur son front. Tu peux pas rater ce titre. C'est dans sa tête, c'est dans son cœur. Et quand il est à la maison, j'ai appris qu'il traverse la maison en mimant qu'il joue au baseball. La question revient pour chacun de nous. Qu'est-ce qui nous concerne? Par quoi sommes-nous, nous sentons-nous concernés? Quand je travaillais, quand j'arrivais à l'office, au travail, mon chef me demandait à quoi penses-tu pour améliorer les résultats de ton travail. Je pensais bien sûr que ça va continuer de s'améliorer tant qu'on travaille dur. Et il me disait, non, comment vas-tu le faire? Je suis reconnaissant qu'il m'ait dit ça. Parce que c'est pas juste. Tu le sais. Ah oui, bien sûr, je travaille à ça. Mais que peut-on faire? Et j'imagine que c'est la même chose dans toutes les sociétés où vous travaillez, toutes ces sociétés high-tech. Mais je crois que la raison pour laquelle je suis reconnaissant qu'il m'ait posé si souvent cette question, c'est que le Seigneur me posait la même. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu devrais faire d'autre pour dispenser le royaume de Dieu? Pour amener son royaume sur la terre? Est-ce que mes pensées sont fixées sur les affaires de mon père? Est-ce que c'est la première chose à laquelle on pense en se réveillant le matin? Est-ce que c'est ma première pensée? Et ça a été confrontant pour moi. Est-ce que la première chose à laquelle je pense en me réveillant, c'est oh, est-ce que le marché va bien? Mais non, Seigneur, comment peux-tu venir plus vite? Est-ce qu'on se réveille ou est-ce qu'on veut se réveiller comme ça? Chercher d'abord les affaires du Père. Avoir la pensée de Christ. Malheureusement, si nous ne pensons pas comme ça, quelqu'un d'autre va te parler comme mon chef le faisait. Mais le monde entier aujourd'hui nous dit quelque chose. Les médias nous disent des choses. Des choses impies, injustes. Comme a dit Ésaïe, ce qui est mauvais devient bon et ce qui est bon devient mauvais. Et c'est ce qui entre dans nos pensées si nous ne sommes pas actifs avec le Seigneur aujourd'hui. C'est pourquoi dans Colossiens, il dit: placez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Et c'est pas juste les choses d'en haut. Colossiens 1. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut. C'est pas juste, ah là maintenant, je suis dans les cieux et tout est tranquille. Et le point, c'est qui est dans les cieux et où? Il est le Seigneur au trône de Dieu. Il est là pour le royaume, pour son royaume. Placez vos pensées sur les choses d'en haut, non sur celles qui sont sur la terre. Philippiens aussi nous rappelle qu'on a besoin d'avoir la même pensée que Christ. Pourquoi? Est-ce que c'est si important qu'on ait les pensées placées sur les choses du trône? Parce que c'est ce qui va conduire notre cœur. C'est vraiment ça qui va guider notre cœur. Ça va nous affecter. Et si nous sommes volontaires pour nous entraîner avec le Seigneur, comment ça se fait que ce petit enfant sache tellement? Il pourrait certainement me dire qui a joué contre qui. Il m'a raconté Est-ce que tu sais qu'en 1939, tel et tel a joué contre tel autre? Comment c'est possible? Parce que c'est écrit dans son cœur. C'est pour ça qu'on doit placer nos pensées sur les choses en haut. Est-ce qu'on autorise le Seigneur à écrire ses pensées dans nos cœurs? Sinon, n'importe quoi va être écrit dans notre cœur. Ton travail, tes hobbies, la manière dont tu élèves tes enfants, tant de choses peuvent être écrites dans ton cœur. Qu'en est-il d'avoir la parole du Seigneur écrite dans nos cœurs? Et pourquoi? Qu'est-ce qui est dans le cœur du Père? Avons-nous vraiment considéré cela? Nous connaissons tous la prière du Seigneur. Quelle est sa prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, reste aux cieux, on va te rejoindre. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. On sait comment le dire. On a cette habitude de prier de cette manière, mais est-ce que c'est actif dans notre manière de vivre? Est-ce que c'est vraiment actif? Est-ce que quand on amène le royaume des cieux en bas, c'est vraiment une bataille? Croyez qu'ils vont juste laisser tomber facilement? Croyez que Satan va dire, ah d'accord, bon ben tiens, voilà les clés de la terre. Ah bon, d'accord, je vais lui donner à Stéphane. Non, tu crois vraiment que ça va être comme ça simple? C'est une bataille spirituelle. On a besoin de réaliser que c'est ce qui est dans le cœur du Père et c'est ce qu'il veut accomplir aujourd'hui. Il veut faire descendre son royaume sur la terre. Quel âge avait-il quand il a commencé à s'occuper des affaires de son père? N'avait pas 21 ou 16, mais il avait 12 ans. Est-ce que tu as moins de 12 ans? Quel âge as-tu? T'as 16 ans. Donc, t'as 4 ans de plus que quand le Seigneur a commencé à s'occuper des affaires du Père. Qu'en est-il de chacun de nous? Emmanuel a que 4 ans de plus. Mais qu'en est-il de nous autres? Est-ce qu'on s'occupe aussi des affaires du Père? On dit que c'est sa nourriture de faire la volonté du Père. Est-ce que c'est notre nourriture de faire la volonté du Père? Où est notre cœur? Où est notre cœur pour combattre dans une guerre? Dieu veut une armée de volontaires. Que penses-tu? Penses-tu que l'armée soit efficace si si les soldats sont pas convaincus par le combat? C'est ce qui a rendu la guerre du Vietnam si compliquée. C'est qu'ils n'étaient pas convaincus, ils ne voulaient pas de cette guerre. Leur cœur n'y était pas pour combattre. On a besoin de réaliser, avant d'être sauvés, on était déjà des ennemis avec Dieu. On était du côté de Satan. Mais maintenant qu'on a été sauvés, baptisés, que nous sommes son royaume, Jacques nous avertit. Ne soyez pas amis du monde. Pourquoi? On ne doit pas être amis du monde. Parce qu'on sera ennemis de Dieu. C'est le problème. Où est notre cœur aujourd'hui? Nous sommes si complaisants. Oui, moi, on est dans des bulles. On a tous des maisons, à manger, il y a des loisirs, tout se passe bien. Bon, ok, l'économie est pas au mieux, mais pour la plupart. Dans les jours de Noé, ils mangeaient, buvaient. Se marier et marier leurs enfants. On est confortable comme ce qu'il décrit là. On s'en fiche en fait. On est léger. Quand on parle de la situation mondiale, que se passe-t-il dans nos pensées? Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne et puis on est là. Ah oh, ouais, bon, les frères sont encore en train de parler de la situation là. Du monde et juste on s'enfuit de ça. Esther, elle a été éduquée élevée par son oncle Mardochée. Elle lui a dit, mais ne crois pas, tu vas aussi avoir des problèmes. Ne crois pas que tu seras seule à échapper. Quand Amos prie et parle de quand le jugement va venir, et ils lui ont dit que c'était des théories de conspiration. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dès qu'on parle de la situation mondiale, on nous dit que c'est de la conspiration. Où est notre cœur, les frères et sœurs? Est-ce qu'on est vraiment son armée pour le royaume? Alors, on a besoin d'être prêt à devenir des captifs. Sommes-nous des serviteurs, des esclaves pour lui, des soldats? Est-ce qu'on va lui dire, oh, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que si les soldats posent de telles questions à leurs supérieurs dans une armée, cette armée est efficace? On a besoin, dans la pensée de Christ, on a besoin d'être ses serviteurs. Je veux être un serviteur. Un esclave. Qui voit. Pour que ça se passe, il faut que mon cœur et mon attitude changent. S'ils ne changent pas, alors c'est très difficile pour le Seigneur d'écrire dans nos cœurs. Mon frère en introduction parlait. Si tu veux connaître la fin d'un livre, tu dois lire la fin. J'écoutais que d'une oreille parce que je m'occupais de l'audio, mais on sait en fait, on a la fin du livre. Donc on sait que le Seigneur va vaincre. Et on sait comment. Mais est-ce qu'on entre dans ce combat? Est-ce qu'on connaît la stratégie de Dieu? Comment il va mettre à terre l'ennemi? Est-ce qu'on connaît sa tactique pour nous détruire, pour nous décourager? Le monde est particulièrement critique aujourd'hui. Pour qu'il écrive sa parole dans nos cœurs, aujourd'hui on a besoin de sa parole. Dans le combat spirituel aujourd'hui, je veux juste vous rappeler. Dans Matthieu 11, verset 12. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, ce sont des violents qui s'emparent du royaume. Il y a un combat. Nous voulons tous faire partie de ces 144 000. Désolée, je ne sais pas quel verset c'était. On a tous besoin d'être actifs pour entrer dans le combat. Et est-ce qu'on réalise l'incroyable grandeur, les armes qu'il nous a données? Tout est là. Vous pouvez lire dans le résumé. La dernière chose que j'ai réalisée, c'est que nous avons toutes les armes spirituelles pour nous battre dans ce combat. Mais est-ce qu'on sait comment les utiliser? Est-ce qu'on sait comment les revêtir? Je me souviens d'un autre frère qui m'avait dit qu'il allait à l'armée pour un entraînement. Il me disait, la manière dont on va apprendre à tirer au pistolet, c'est en regardant une vidéo. Et il m'a dit, non, on va avoir une présentation PowerPoint. On va pas le faire en vrai. Comment tu vas apprendre à tirer au pistolet si tu as juste vu une vidéo? Comment tu vas savoir nettoyer le pistolet? Il m'a dit, ah ben, on a cette liste. Cette checklist. Dis-moi, est-ce que tu crois que ce frère qui a dû faire ce camp, il peut être un soldat efficace sur un champ de bataille? Est-ce que tu crois qu'une telle personne serait capable de se tenir au milieu d'un champ de bataille? Non, il sera. Ce sera un canard assis, disons en anglais. Il sera juste sur le côté. Il va entendre les choses, les gens qui tirent autour de lui, mais lui, il sera incapable de tirer. Le Seigneur, aujourd'hui, nous donne cet immense pouvoir. Il nous a donné les clés du royaume. Pour faire quoi, Mich? J'entends pas du tout ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on sait comment utiliser ces clés pour lier l'ennemi? Commence de lire. L'armure, on voit qu'une partie c'est pour se protéger et l'autre partie c'est pour attaquer. Pourquoi tu utilises une épée dans une guerre? Dans une main, tu as le bouclier pour te protéger, mais dans l'autre main, tu as de quoi attaquer l'ennemi. Est-ce qu'on sait comment l'utiliser? En tant que l'Église, en tant que son armée volontaire. Le Seigneur veut pas seulement écrire sa parole dans nos cœurs. Une chose qui est devenue très claire dans ces derniers mois, j'ai réalisé que c'est un entraînement. Savoir comment combattre l'ennemi. Le Seigneur aurait pu le faire il y a longtemps. Mais il veut le faire avec nous. Il veut combattre l'ennemi. C'était une bonne chose de passer du temps pour prier d'une telle manière. Notre confiance dans le Seigneur grandit. Et on va se combattre avec lui et regagner la terre. Qu'est-ce qui est dans notre tête? Quel nom est écrit sur notre front? Est-ce que nous permettons vraiment que son nom soit écrit? Et est-ce que nous collaborons vraiment avec lui? Si nous sommes volontaires pour combattre avec le Seigneur d'une telle manière, alors le Seigneur peut faire beaucoup. Souvenez-vous, sa volonté, c'est d'amener son royaume sur la terre. Le Seigneur ne veut pas régner par lui-même, mais il veut régner avec nous. Quel est le but ultime de la vie chrétienne? Devenir des rois et sacrificateurs. Ça devrait aussi être écrit sur nos fronts. Est-ce que le nom de la Nouvelle Jérusalem est aussi écrit sur notre front? Est-ce que nous vivons d'une telle manière? C'est notre chemin pour devenir prémices. Nous puissions collaborer avec le Seigneur, que vraiment nous désirions avoir ce nom écrit sur nos fronts. Quand vous voyez, je veux pas que vous voyez baseball sur mon front. Mais je veux voir le nom du Père de la Nouvelle Jérusalem écrit sur mon front et sur nos fronts tous. Rends-nous un avec toi, Seigneur. Que nous ayons ton nom et le nom du Père écrit sur nos fronts. Quand le Seigneur revient, qu'est-ce qu'il nous reste? On a besoin d'apprendre à nous donner pour lui, pour son plan. Quand Satan vient pour nous faire tomber, il dit qu'il est celui qui fait tomber dans ce monde. Il est très bon à ça. Il est très entraîné. Il est entraîné depuis des milliers d'années. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Pas juste pour que nous soyons sauvés, que nous ne fassions rien. Nous sommes un être humain. Peut-on juste être un être humain et ne rien faire sur cette terre? Est-ce que tu veux être bon à rien? Non, tu as besoin de faire quelque chose en tant qu'être humain. Dieu nous a créés pour un but et il a payé un si grand prix. Pas juste pour qu'on soit sauvés, qu'on aille au ciel et qu'on fasse rien là. Non, c'est pas le but de la vie. Mais notre vie a vraiment un but. Si on s'inscrit dans la volonté de Dieu, tout le reste est vraiment rien. Une Tesla, c'est bien, mais quelle est la différence entre une Tesla et une Kia? Aucune, elle t'amène à un lieu. On se dit, waouh, j'aimerais ça, juste pour nous satisfaire nous-mêmes. Qu'en est-il de vouloir satisfaire la volonté du Père? Si nous cherchons à faire la volonté du Père, croyons que nous sommes juste comme une petite souris. Mais non, le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Je n'ai jamais regretté que le Seigneur m'appelle quand j'étais jeune pour le servir. Et nous sommes vraiment donnés à Dieu pour faire son travail, sa volonté. Même quand nous sommes allés en Europe, nous y sommes allés avec rien, juste deux bagages. Et je peux témoigner. Nous prions, nous avons prié nuit et jour avec des frères à ce sujet, jusqu'à 3 h du matin. Pas pour prendre un avion, je ne sais quoi, mais vraiment pour travailler pour Dieu. Et je peux vraiment vous témoigner à tous que le Seigneur fait de grandes choses pendant qu'on était en Europe, pas à cause de nous. Ce qu'on a fait, c'était juste nous donner à Dieu. Un instrument en lui-même ne peut rien faire, mais on était des instruments dans sa main. Un instrument dans la main de Dieu. Alors, tu vas réaliser que Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut faire de grandes choses. On passe tellement de temps, jour et nuit, à réfléchir. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Rien. Je dis pas que ça, qu'il faut abandonner, que ça sert à rien. Mais il y a bien plus précieux et bien plus important. Et c'est quelque chose d'éternel et glorieux. Peu importe ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour vivre. Je dis pas que c'est égal, c'est juste que c'est pas notre rôle sur cette terre. Nous avons besoin de réaliser quel est le but de notre vie. Et Hébreux nous le dit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un homme pourquoi? Ce serait terrible, je serais très mauvais. Seigneur veut faire de grandes choses sur cette terre. Il y a de grandes et belles choses à faire sur cette terre. Je ne dis pas que tu ne devrais pas les faire. Mais la priorité, même jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. ceux qui se tiennent là avec le Seigneur, c'est pas ceux qui sont froids. Ah, pardon, c'est pas tous ceux qui sont appelés. Combien sont appelés? Tous, mais par contre, combien sont fidèles jusqu'à la fin? Pas beaucoup, il y a peu d'élus. On a besoin d'être fidèles. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu vas être fidèle pour faire tes examens et réviser et faire toutes tes études? Ou est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu apprends avec Christ? Est-ce qu'on a juste une vie chrétienne, une vie de l'Église confortable? Je demandais aux frères. Il y a une bataille. Nous voulons regagner cette terre pour le Seigneur. Si tu demandes si le Seigneur te dit je te donne telle partie de la terre, et toi tu es juste préoccupé par tes propres affaires, qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la création. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'on n'est pas prêt. On a besoin de voir Christ, Jésus. Il l'a fait. Pas pour lui-même, mais il l'a fait. Pour nous. Est-ce que tu veux être là avec lui ou pas? Le Seigneur n'a jamais forcé personne à le faire. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup ont cru, ils voulaient juste être sauvés. Et puis voilà. Est-ce que être sauvé et ne pas finir dans les temps de feu te suffit? Bien sûr, c'est bien d'être content de ça. Le Seigneur a besoin de toi. Je me souviens toujours de cette image. Oncle Sam a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous pour combattre. Dans Apocalypse 5, il est seul. Mais par contre, quand on arrive à Apocalypse 14, il y a 144 000 avec lui. Oui, le Seigneur. Bien sûr. Pour le combat, il y a aussi le... Il y a le fils... On doit être prêt constamment. Parce que demain je peux mourir et il n'y aura aucun moyen d'être préparé après, une fois que je suis mort. Aujourd'hui, on a le temps. Aujourd'hui, maintenant. Regardez les cinq vierges quand elles se réveillent. Leurs vases sont toujours aussi vides que quand elles sont mortes. Elles ont juste patienté pour le retour de l'époux. Donc même si le Seigneur ne revient pas rapidement, et je suis convaincue qu'il revient bientôt, mais même si On doit vraiment combattre et se préparer aujourd'hui pour faire partie du Fils et pas faire partie de la mère. De nouveau, il y a deux groupes. Un passé au travers des 3 ans et demi du jugement. Et l'autre, il monte pour aller avec l'agneau sur la montagne de Sion. Même dans ta vie chrétienne, tu as des choix à faire. Ta famille a fait le choix de venir ici. C'est un bon choix. Et même une fois ici, tu dois choisir où tu veux vivre. On a des choix constamment. Et ça, c'est le choix ultime. Ne le ratons pas. Sinon, on va vraiment pleurer et grincer des dents de regret. Mais on est appelé à régner avec Christ. Au lieu de régner avec Christ, à ce moment-là, tu vas pleurer et grincer des dents. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait les bons choix? Nous ne voulons pas être ainsi quand le Seigneur vient. Ça ne signifie pas que ah, je suis pour Dieu et tout va bien. Non, nous pouvons toujours faire de Christ notre priorité. Je suis pas en train de te dire que tu dois vendre ta maison et aller vivre là dans le parc. Sous tente, ça veut pas dire ça. Ça va pas t'aider à gagner le royaume. Mais pour gagner le Seigneur. Il sait de quoi il a besoin pour chacun de nous. Il est le Dieu vivant. J'ai 80 ans aujourd'hui. 80. Toutes ces années, j'ai toujours eu ce but devant les yeux. Je veux aller là-haut et me tenir avec lui sur mon sillon. Oui, Seigneur, c'est possible. Est-ce que je vais vivre comme un SDF? Non. Mais dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de ce but. J'aimerais encourager chacun de vous. Faites partie de cela. C'est un véritable privilège. Et c'est une vie magnifique. Louez le Seigneur. J'espère qu'on est tous encouragés. Et vous aussi sur Zoom. On va s'arrêter là.